Personne, sauf Olivier Bertin, ne savait le retour d'Annette de Guilleroy. Et l'apparition de la jeune fille à côté de sa mère, qui d'un peu loin semblait presque aussi fraîche et même plus belle, car fleur trop ouverte, elle n'avait pas fini d'être éclatante, tandis que l'enfant, à peine épanoui, commençait seulement à être joli, les fit trouver charmantes toutes les deux. La duchesse, ravie, battant des mains, s'exclamait « Dieu, qu'elles sont ravissantes et amusantes l'une à côté de l'autre ! Regardez donc, monsieur de Musadieu, comme elles se ressemblent !» On comparait. Deux opinions se formèrent aussitôt. D'après Musadieu, les corbelles et le comte de Guilleroy, la comtesse et sa fille ne se ressemblaient que par le teint, les cheveux et surtout les yeux, qui étaient tout à fait les mêmes, également tachetés de points noirs, pareils à de minuscules gouttes d'encre tombées sur l'iris bleu. Mais d'ici peu, quand la jeune fille serait devenue une femme, elle ne se ressemblerait presque plus. D'après la duchesse, au contraire, et d'après Olivier Bertin, elles étaient en tout semblables, et seule la différence d'âge les faisait paraître différentes. Le peintre disait « Est-elle changée depuis 3 ans? Je ne l'aurais pas reconnue. Je ne vais pas oser la tutoyer. » La comtesse se mit à rire. « Ah, par exemple, je voudrais bien vous voir dire « vous » à Annette. » La jeune fille, dont la future crânerie apparaissait sous des airs timidement espiègles, reprit « C'est moi qui n'oserais plus dire « tu » à Monsieur Bertin. » Sa mère sourit. « Garde cette mauvaise habitude, je te le permets. Vous referez vite connaissance. » Mais Annette remuait la tête. « Non, non, ça me gênerait. » La duchesse, l'ayant embrassée, l'examinait en connaisseuse intéressée. « Voyons, petite, regarde-moi bien en face. Oui, tu as tout à fait le même regard que ta mère. Tu seras pas mal dans quelque temps, quand tu auras pris du brillant. Il faut engraisser. Pas beaucoup, mais un peu. Tu es maigrichonne. » La comtesse s'écria « Oh, ne lui dites pas cela !»« Et pourquoi ?»« C'est si agréable d'être mince. Moi, je vais me faire maigrir. » Mais madame de Mortemain se fâcha, oubliant, dans la vivacité de sa colère, la présence d'une fillette. « Ah, toujours, vous en êtes toujours à la mode des os, parce qu'on les habille mieux que la chair. Moi, je suis de la génération des femmes grasses. Aujourd'hui, c'est la génération des femmes maigres. Ça me fait penser aux vaches d'Égypte. Je ne comprends pas les hommes, par exemple, qui ont l'air d'admirer vos carcasses. De notre temps, ils demandaient mieux. » Elle se tut au milieu des sourires, puis reprit. « Regarde ta maman, petite, elle est très bien, juste à point, imite-la. » On passait dans la salle à manger. Lorsqu'on fut assis, Musadieu reprit la discussion. « Moi, je dis que les hommes doivent être maigres, parce qu'ils sont faits pour des exercices qui réclament de l'adresse et de l'agilité, incompatibles avec le ventre. Le cas des femmes est un peu différent. Est-ce votre avis, Corbelle ?» Corbelle fut perplexe, la duchesse étant forte et sa propre femme plus que mince. Mais la baronne vint au secours de son mari et résolument se prononça pour la sveltesse. L'année d'avant, elle avait dû lutter contre un commencement d'embonpoint, qu'elle domina très vite. Madame de Guilleroy demanda « Dites, comment vous avez fait ?» Et la baronne expliqua la méthode employée par toutes les femmes élégantes du jour. On ne buvait pas en mangeant. Une heure après le repas seulement, on se permettait une tasse de thé. Très chaud, brûlant. Cela réussissait à tout le monde. Elle cita des exemples étonnants de grosses femmes devenues, en 3 mois, plus fines que des lames de couteau. La duchesse, exaspérée, s'écria « Dieu, que c'est bête de se torturer ainsi! Vous n'aimez rien, mais rien, pas même le champagne! Voyons, Bertin, vous qui êtes artiste, qu'en pensez-vous? Mon Dieu, madame, je suis peintre, je drape, ça m'est égal. Si j'étais sculpteur, je me plaindrais. Mais vous êtes homme, que préférez-vous? Moi, une élégance un peu nourrie, que ma cuisinière appelle un bon petit poulet de grain. Il n'est pas gras, il est plein et fin. La comparaison fit rire. Mais la comtesse incrédule regardait sa fille et murmurait: Non, c'est très gentil d'être maigre. Les femmes qui restent maigres ne vieillissent pas. Ce point-là fut encore discuté et partagea la société. Tout le monde, cependant, se trouva à peu près d'accord sur ceci, qu'une personne très grasse ne devait pas maigrir trop vite. Cette observation donna lieu à une revue des femmes connues dans le monde et à de nouvelles contestations sur leur grâce, leur chic et leur beauté. Musadieu jugeait la blonde marquise de Locriste incomparablement charmante, tandis que Bertin estimait sans rivale Madame Mandelière, brune, avec son front bas, ses yeux sombres et sa bouche un peu grande, où ses dents semblaient luire. Il était assis à côté de la jeune fille, et tout à coup, se tournant vers elle, Écoute bien, Nanette, tout ce que nous disons là. Tu l'entendras répéter au moins une fois par semaine, jusqu'à ce que tu sois vieille. En 8 jours, tu sauras par cœur tout ce qu'on pense dans le monde, sur la politique, les femmes, les pièces de théâtre et le reste. Il n'y aura qu'à changer les noms des gens ou les titres des œuvres de temps en temps. Quand tu nous auras tous entendus exposer et défendre notre opinion, tu choisiras paisiblement la tienne parmi celles qu'on doit avoir, et puis tu n'auras plus besoin de penser à rien, jamais, tu n'auras qu'à te reposer. La petite, sans répondre, leva sur lui un œil malin, où vivait une intelligence jeune, alerte, tenue en laisse et prête à partir. Mais la duchesse et Musadieu, qui jouaient aux idées comme on joue à la balle, sans s'apercevoir qu'ils se renvoyaient toujours les mêmes, protestèrent au nom de la pensée et de l'activité humaine. Alors Bertin s'efforça de démontrer combien l'intelligence des gens du monde, même les plus instruits, est sans valeur, sans nourriture et sans portée, combien leurs croyances sont pauvrement fondées, leur attention aux choses de l'esprit faible et indifférente, leurs goûts sautillants et douteux. Saisi par un de ces accès d'indignation à moitié vrai et à moitié factice, que provoque d'abord le désir d'être éloquent et qu'échauffe tout à coup un jugement clair, ordinairement obscurci par la bienveillance, il montra comment les gens qui ont pour unique occupation dans la vie de faire des visites et de dîner en ville se trouvent devenir, par une irrésistible fatalité, des êtres légers et gentils, mais banals, qu'agitent vaguement des soucis, des croyances et des appétits superficiels. Il montra que rien chez eux n'est profond, ardent, sincère, que leur culture intellectuelle étant nulle et leur érudition un simple vernis, ils demeurent, en somme, des mannequins qui donnent l'illusion et font les gestes d'être d'élite qu'ils ne sont pas. Ils prouvent que les frêles racines de leurs instincts ayant poussé dans les conventions et non dans les réalités, ils n'aiment rien véritablement que le luxe même de leur existence et une satisfaction de vanité, et non l'apaisement d'un besoin raffiné de leur corps, car on mange mal chez eux, on y boit de mauvais vin, payé fort cher. Ils vivent, disait-il, à côté de tout, sans rien voir et rien pénétrer, à côté de la science qu'ils ignorent, à côté de la nature qu'ils ne savent pas regarder, à côté du bonheur, car ils sont impuissants à jouir ardemment de rien, à côté de la beauté du monde ou de la beauté de l'art, dont ils parlent sans l'avoir découverte, et même sans y croire, car ils ignorent l'ivresse de goûter aux joies de la vie et de l'intelligence. Ils sont incapables de s'attacher à une chose jusqu'à l'aimer uniquement, de s'intéresser à rien jusqu'à être illuminés par le bonheur de comprendre. Le baron de Corbeil crut devoir prendre la défense de la bonne compagnie. Il le fit avec des arguments inconsistants et irréfutables, de ces arguments qui fondent devant la raison comme la neige au feu et qu'on ne peut saisir, des arguments absurdes et triomphants de curés de campagne qui démontrent Dieu. Il compara pour finir les gens du monde aux chevaux de course qui ne servent à rien, à vrai dire, mais qui sont la gloire de la race chevaline. Bertin, gêné devant cet adversaire, gardait maintenant un silence dédaigneux et poli. Mais soudain, la bêtise du baron l'irrita, et interrompant adroitement son discours, il raconta, du lever jusqu'au coucher, sans rien omettre, la vie d'un homme bien élevé. Tous les détails finement saisis dessinaient une silhouette irrésistiblement comique. On voyait le monsieur habillé par son valet de chambre, exprimant d'abord au coiffeur qui le venait raser quelques idées générales, puis, au moment de la promenade matinale, interrogeant les palefreniers sur la santé des chevaux, puis, trottant par les allées du bois, avec l'unique souci de saluer et d'être salué, puis déjeunant en face de sa femme, sorti en coupé de son côté, et ne lui parlant que pour énumérer le nom des personnes aperçues le matin, puis allant jusqu'au soir, de salon en salon, se retremper l'intelligence dans le commerce de ses semblables, et dînant chez un prince où était discutée l'attitude de l'Europe, pour finir ensuite la soirée au foyer de la danse, à l'opéra, où ses timides prétentions de viveur étaient satisfaites innocemment par l'apparence d'un mauvais lieu. Le portrait était si juste, sans que l'ironie en fût blessante pour personne, qu'un rire courait autour de la table. La duchesse, secouée par une gaieté retenue de grosses personnes, avait dans la poitrine de petites secousses discrètes. Elle dit enfin « Non, vraiment, c'est trop drôle, vous me ferez mourir de rire. » Bertin, très excité, riposta « Oh, madame, dans le monde, on ne meurt pas de rire, c'est à peine si on rit. On a la complaisance, par bon goût, d'avoir l'air de s'amuser et de faire semblant de rire. On imite assez bien la grimace, on ne fait jamais la chose. Allez dans les théâtres populaires, vous verrez rire. Allez chez les bourgeois qui s'amusent, vous verrez rire jusqu'à la suffocation. Allez dans les chambrées de soldats, vous verrez des hommes étranglés, les yeux pleins de larmes, se tordre sur leur lit devant les farces d'un loustique. Mais dans nos salons, on ne rit pas. Je vous dis qu'on fait le simulacre de tout, même du rire. » Musadieu l'arrêta. « Permettez, vous êtes sévère. Vous-même, mon cher, il me semble pourtant que vous ne dédaignez pas ce monde que vous raillez si bien. » Bertin sourit. « Moi, je l'aime. » « Mais alors ?»«
Je me méprise un peu comme un métis de race douteuse. » »«
Tout cela, c'est de la pose, » dit la duchesse. Et comme il se défendait de poser, elle termina la discussion en déclarant que tous les artistes aimaient à faire prendre aux gens des vessies pour des lanternes. La conversation, alors, devint générale et effleura tout, banale et douce, amicale et discrète, et, comme le dîner touchait à sa fin, la comtesse tout à coup s'écria, en montrant ses verres pleins devant elle, « Eh bien, je n'ai rien bu, rien, pas une goutte, nous verrons si je maigrirai. » La duchesse, furieuse, voulut la forcer à avaler une gorgée ou deux d'eau minérale. Ce fut en vain, et elle s'écria « Oh, la sotte! Voilà que sa fille va lui tourner la tête. Je vous en prie, Guilleroy, empêchez votre femme de faire cette folie !» Le comte, en train d'expliquer à Musadieu le système d'une batteuse mécanique inventée en Amérique, n'avait pas entendu. « Quelle folie, duchesse !» « La folie de vouloir maigrir !» Il jeta sur sa femme un regard bienveillant et indifférent. « C'est que je n'ai pas pris l'habitude de la contrarier. » La comtesse s'était levée en prenant le bras de son voisin. Le comte offrit le sien à la duchesse. Et on passa dans le grand salon, le boudoir du fond étant réservé aux réceptions de la journée.
C'était une pièce très vaste et très claire. Sur les quatre murs, de larges et beaux panneaux en soie bleu pâle, à dessins anciens, enfermés en des encadrements blancs et or, prenaient sous la lumière des lampes et du lustre une teinte lunaire douce et vive. Au milieu du principal, le portrait de la comtesse, par Olivier Bertin, semblait habiter, animer l'appartement. Il y était chez lui. Mêlé à l'air même du salon, son sourire de jeune femme, la grâce de son regard, le charme léger de ses cheveux blonds. C'était d'ailleurs presque un usage, une sorte de pratique d'urbanité, comme le signe de croix en entrant dans les églises, de complimenter le modèle sur l'œuvre du peintre chaque fois qu'on s'arrêtait devant. Mussadieu n'y manquait jamais. Son opinion de connaisseur commissionné par l'État, ayant une valeur d'expertise légale, il se faisait un devoir d'affirmer souvent, avec conviction, la supériorité de cette peinture. « Vraiment, dit-il, voilà le plus beau portrait moderne que je connaisse. Il y a là-dedans une vie prodigieuse. » Le comte de Guilleroy, chez qui l'habitude d'entendre vanter cette toile avait enraciné la conviction qu'il possédait un chef-d'œuvre, s'approcha pour renchérir, et pendant une minute ou deux, ils accumulèrent toutes les formules usitées et techniques pour célébrer les qualités apparentes et intentionnelles de ce tableau. Tous les yeux, levés vers le mur, semblèrent ravis d'admiration. Et Olivier Bertin, accoutumé à ses éloges, auxquels il ne prêtait guère plus d'attention qu'on ne fait aux questions sur la santé après une rencontre dans la rue, redressait cependant la lampe à réflecteur placée devant le portrait pour l'éclairer, le domestique l'ayant posée par négligence un peu de travers. Puis on s'assit, et le comte s'étant approché de la duchesse, elle lui dit « Je crois que mon neveu va venir me chercher et vous demander une tasse de thé. » Leurs désirs, depuis quelque temps, s'étaient rencontrés et devinés, sans qu'ils se les fussent encore confiés, même par des sous-entendus. Le frère de la duchesse de Mortemain, le marquis de Farandal, après s'être presque entièrement ruiné au jeu, était mort d'une chute de cheval, en laissant une veuve et un fils. Âgé maintenant de 28 ans, ce jeune homme, un des plus convoités meneurs de cotillons d'Europe, car on le faisait venir parfois à Vienne et à Londres pour couronner par des tours de valse des bals princiers, bien qu'à peu près sans fortune, demeurait, par sa situation, par sa famille, par son nom, par ses parentés presque royales, un des hommes les plus recherchés et les plus enviés de Paris. Il fallait affermir cette gloire trop jeune, dansante et sportive, et après un mariage riche, très riche, remplacer les succès mondains par des succès politiques. Dès qu'il serait député, le marquis deviendrait, par ce seul fait, une des colonnes du trône futur, un des conseillers du roi, un des chefs du parti. La duchesse, bien renseignée, connaissait l'énorme fortune du comte de Guilleroy. Thésaurisateur prudent, logé dans un simple appartement, quand il aurait pu vivre en grand seigneur dans un des plus beaux hôtels de Paris. Elle savait ses spéculations toujours heureuses, son flair subtil de financier, sa participation aux affaires les plus fructueuses lancées depuis 10 ans. Et elle avait eu la pensée de faire épouser à son neveu la fille du député normand, à qui ce mariage donnerait une influence prépondérante dans la société aristocratique de l'entourage des princes. Guilleroy, qui avait fait un mariage riche et multiplié par son adresse une belle fortune personnelle, couvait maintenant d'autres ambitions. Il croyait au retour du roi et voulait, ce jour-là, être en mesure de profiter de cet événement de la façon la plus complète. Simple député, il ne comptait pas pour grand-chose. Beau-père du marquis de Farandal, dont les aïeux avaient été les familiers fidèles et préférés de la maison royale de France, il montait au premier rang. L'amitié de la duchesse pour sa femme prêtait en outre à cette union un caractère d'intimité très précieux, et par crainte qu'une autre jeune fille se rencontrât, qui plut subitement au marquis, il avait fait revenir la sienne afin de hâter les événements. Madame de Mortemain, pressentant ses projets et les devinant, y prêtait une complicité silencieuse, et, ce jour-là même, bien qu'elle n'eût pas été prévenue du brusque retour de la jeune fille, elle avait engagé son neveu à venir chez les Guilleroy afin de l'habituer, peu à peu, à entrer souvent dans cette maison. Pour la première fois, le comte et la duchesse parlèrent à mots couverts de leurs désirs, et en se quittant, un traité d'alliance était conclu. On riait à l'autre bout du salon. Monsieur de Mussadieu racontait à la baronne de Corbeil la présentation d'une ambassade nègre au président de la République, quand le marquis de Farandal fut annoncé. Il parut sur la porte et s'arrêta. Par un geste du bras rapide et familier, il posa un monocle sur son œil droit et l'y laissa comme pour reconnaître le salon où il pénétrait, mais pour donner peut-être aux gens qui s'y trouvaient le temps de le voir et pour marquer son entrée. Puis, par un imperceptible mouvement de la joue et du sourcil, il laissa retomber le morceau de verre au bout d'un cheveu de soie noire et s'avança vivement vers madame de Guilleroy, dont il baisa la main tendue en s'inclinant très bas. Il en fit autant pour sa tante, puis il salua en serrant les autres mains, allant de l'un à l'autre avec une élégante aisance. C'était un grand garçon à moustache rousse, un peu chauve déjà, taillé en officier, avec des allures anglaises de sportsman. On sentait, à le voir, un de ces hommes dont tous les membres sont plus exercés que la tête, et qui n'ont d'amour que pour les choses où se développent la force et l'activité physique. Il était instruit pourtant, car il avait appris, et il apprenait encore chaque jour, avec une grande tension d'esprit, tout ce qu'il lui serait utile de savoir plus tard. L'histoire, en s'acharnant sur les dates et en se méprenant sur les enseignements des faits, et les notions élémentaires d'économie politique nécessaires à un député. L'ABC de la sociologie à l'usage des classes dirigeantes. Mussadieu l'estimait, disant « Ce sera un homme de valeur ». Bertin appréciait son adresse et sa vigueur. Ils allaient à la même salle d'armes, chassaient ensemble souvent, et se rencontraient à cheval dans les allées du bois. Entre eux était donc née une sympathie de goût commun, cette franc-maçonnerie instinctive que crée entre deux hommes un sujet de conversation tout trouvé, agréable à l'un comme à l'autre. Quand on présenta le marquis à Annette de Guilleroy, il eut brusquement le soupçon des combinaisons de sa tante, et, après s'être incliné, il la parcourut d'un regard rapide d'amateur. Il la jugea gentille et surtout pleine de promesses, car il avait tant conduit de cotillons qu'il s'y connaissait en jeune fille et pouvait prédire presque à coup sûr l'avenir de leur beauté, comme un expert qui goûte un vin trop vert. Il échangea seulement avec elle quelques phrases insignifiantes, puis s'assit auprès de la baronne de Corbeil afin de potiner à mi-voix. On se retira de bonne heure, et quand tout le monde fut parti, l'enfant couché, les lampes éteintes, les domestiques remontés en leur chambre, le comte de Guilleroy, marchant à travers le salon, éclairé seulement par deux bougies, retint longtemps la comtesse ensommeillée sur un fauteuil pour développer ses espérances, détailler l'attitude à garder, prévoir toutes les combinaisons, les chances et les précautions à prendre. Il était tard quand il se retira, ravi d'ailleurs de sa soirée, et murmurant « Je crois bien que c'est une affaire faite. » Chapitre 3. Quand viendrez-vous, mon ami? Je ne vous ai pas aperçu depuis 3 jours, et cela me semble long. Ma fille m'occupe beaucoup, mais vous savez que je ne peux plus me passer de vous. » Le peintre, qui crayonnait des esquisses, cherchant toujours un sujet nouveau, relut le billet de la comtesse. Puis, ouvrant le tiroir d'un secrétaire, il l'y déposa sur un amas d'autres lettres entassées là depuis le début de leur liaison. Il s'était accoutumé, grâce aux facilités de la vie mondaine, à se voir presque chaque jour. De temps en temps, elle venait chez lui, et, le laissant travailler, s'asseyait pendant une heure ou deux dans le fauteuil où elle avait posé jadis. Mais comme elle craignait un peu les remarques des domestiques, elle préférait, pour ses rencontres quotidiennes, pour cette petite monnaie de l'amour, le recevoir chez elle ou le retrouver dans un salon. On arrêtait un peu d'avance ces combinaisons qui semblaient toujours naturelles à M. de Guilleroy. Deux fois par semaine au moins, le peintre dînait chez la comtesse avec quelques amis. Le lundi, il la saluait régulièrement dans sa loge à l'opéra, puis il se donnait rendez-vous dans telle ou telle maison où le hasard les amenait à la même heure. Il savait les soirs où elle ne sortait pas, et il entrait alors prendre une tasse de thé chez elle, se sentant chez lui, près de sa robe, si tendrement et si sûrement logé dans cette affection mûrie, si capturé par l'habitude de la trouver quelque part, de passer à côté d'elle quelques instants, d'échanger quelques paroles, de mêler quelques pensées, qu'il éprouvait, bien que la flamme vive de sa tendresse fût depuis longtemps apaisée, un besoin incessant de la voir. Le désir de la famille, d'une maison animée, habitée, du repas en commun, des soirées où l'on cause sans fatigue avec des gens depuis longtemps connus, ce désir du contact, du coudoiement, de l'intimité qui sommeille en tout cœur humain et que tout vieux garçon promène de porte en porte chez ses amis où il installe un peu de lui, ajoutait une forme d'égoïsme à ses sentiments d'affection. Dans cette maison où il était aimé, gâté, où il trouvait tout, il pouvait encore reposer et dorloter sa solitude. Depuis 3 jours, il n'avait pas revu ses amis, que le retour de leur fille devait agiter beaucoup. Et il s'ennuyait déjà, un peu fâché même qu'ils ne l'eussent point appelé plus tôt, émettant une certaine discrétion à ne les point solliciter le premier. La lettre de la comtesse le souleva comme un coup de fouet. Il était 3 heures de l'après-midi, il se décida immédiatement à se rendre chez elle pour la trouver avant qu'elle sortît. Le valet de chambre parut, appelé par un coup de sonnette. « Quel temps, Joseph ?»«
Très beau, monsieur. »«
Chaud ?»«
Oui, monsieur. » »«
Gilet blanc, jaquette bleue, chapeau gris. » Il avait toujours une tenue très élégante, mais bien qu'il fût habillé par un tailleur au style correct, la façon seule dont il portait ses vêtements, dont il marchait, le ventre sanglé dans un gilet blanc, le chapeau de feutre gris, haut de forme, un peu rejeté en arrière, semblait révéler tout de suite qu'il était artiste et célibataire. Quand il arriva chez la comtesse, on lui dit qu'elle se préparait à faire une promenade au bois. Il fut mécontent et attendit. Selon son habitude, il se mit à marcher à travers le salon, allant d'un siège à l'autre ou des fenêtres au mur, dans la grande pièce assombrie par les rideaux. Sur les tables légères, aux pieds dorés, des bibelots de toutes sortes, inutiles, jolis et coûteux, traînaient dans un désordre cherché. C'étaient de petites boîtes anciennes en or travaillé, des tabatières à miniature, des statuettes d'ivoire, puis des objets en argent mat, tout à fait modernes, d'une drôlerie sévère, où apparaissait le goût anglais. Un minuscule poêle de cuisine, et dessus, un chat buvant dans une casserole, un étui à cigarette simulant un gros pain, une cafetière pour mettre des allumettes, et puis dans un écrin, toute une parure de poupées, colliers, bracelets, bagues, broches, boucles d'oreilles avec des brillants, des saphirs, des rubis, des émeraudes, microscopiques fantaisies qui semblaient exécutées par des bijoutiers de Lilliput. De temps en temps, il touchait un objet, donné par lui à quelque anniversaire, le prenait, le maniait, l'examinait avec une indifférence rêvassante, puis le remettait à sa place. Dans un coin, quelques livres rarement ouverts, reliés avec luxe, s'offrait à la main sur un guéridon porté par un seul pied devant un petit canapé de forme ronde. On voyait aussi sur ce meuble la revue des deux mondes, un peu fripée, fatiguée, avec des pages cornées, comme si on avait lu et relu, puis d'autres publications non coupées, les arts modernes, qu'on doit recevoir uniquement à cause du prix, l'abonnement coûtant 400 francs par an, et la feuille libre, mince plaquette à couverture bleue, où se répandent les poètes les plus récents, qu'on appelle les énervés. Entre les fenêtres, le bureau de la comtesse, meuble coquet du dernier siècle, sur lequel elle écrivait les réponses aux questions pressées apportées pendant les réceptions, quelques ouvrages encore sur ce bureau, les livres familiers, enseignes de l'esprit et du cœur de la femme. Musset, Manon Lescaut, Werther, et pour montrer qu'on n'était pas étranger aux sensations compliquées et aux mystères de la psychologie, Les Fleurs du Mal, Le Rouge et le Noir, La Femme au XVIIIe siècle, Adolphe. À côté des volumes, un charmant miroir à main, chef-d'œuvre d'orfèvrerie, dont la glace était retournée sur un carré de velours brodé, afin qu'on pût admirer sur le dos un curieux travail d'or et d'argent. Bertin le prit et se regarda dedans. Depuis quelques années, il vieillissait terriblement, et bien qu'il jugeât son visage plus original qu'autrefois, il commençait à s'attrister du poids de ses joues et des plissures de sa peau. Une porte s'ouvrit derrière lui. « Bonjour, monsieur Bertin, » disait Annette. « Bonjour, petite, tu vas bien ?»« Très bien, et vous ?» « Comment, tu ne me tutoies pas, décidément ?»« Non, vrai, ça me gêne. »« Allons donc. »« Oui, ça me gêne, vous m'intimidez. »«
Pourquoi ça ?»«
Parce que vous n'êtes ni assez jeune ni assez vieux. » Le peintre se mit à rire. « Devant cette raison, je n'insiste point. » Elle rougit tout à coup, jusqu'à la peau blanche où poussent les premiers cheveux, et reprit, confuse, « Maman m'a chargée de vous dire qu'elle descendait tout de suite et de vous demander si vous vouliez venir au bois de Boulogne avec nous. »«
Oui, certainement. Vous êtes seule ?»«
Non, avec la duchesse de Mortemain. »«
Très bien, j'en suis. »«
Alors, vous permettez que j'aille mettre mon chapeau ?»«
Va, mon enfant. »
Comme elle sortait, la comtesse entra, voilée, prête à partir. Elle tendit ses mains.
« On ne vous voit plus, qu'est-ce que vous faites ?»«
Je ne voulais pas vous gêner en ce moment. »
Dans la façon dont elle prononça « Olivier », elle mit tous ses reproches et tout son attachement.
« Vous êtes la meilleure femme du monde, » dit-il, ému par l'intonation de son nom.
Cette petite querelle de cœur finie et arrangée, elle reprit sur le ton des causeries mondaines. « Nous allons aller chercher la duchesse à son hôtel, et puis nous ferons un tour de bois. Il va falloir montrer tout ça à Nanette. » Le landau attendait sous la porte cochère. Bertin s'assit en face des deux femmes, et la voiture partit au milieu du bruit, des chevaux piaffant sous la voûte sonore. Le long du grand boulevard, descendant vers la Madeleine, toute la gaieté du printemps nouveau semblait tomber du ciel sur les vivants. L'air tiède et le soleil donnaient aux hommes des airs de fête, aux femmes des airs d'amour, faisaient cabrioler les gamins et les marmitons blancs qui avaient déposé leurs corbeilles sur les bancs pour courir et jouer avec leurs frères, les jeunes voyous. Les chiens semblaient pressés, les serins des concierges s'égosillaient. Seuls les vieilles rosses attelées au fiacre allaient toujours de leur allure accablée, de leur trot de moribond. La comtesse murmura « Oh, le beau jour, qu'il fait bon vivre !» Le peintre, sous la grande lumière, les contemplait l'une auprès de l'autre, la mère et la fille. Certes, elles étaient différentes, mais si pareilles en même temps que celle-ci était bien la continuation de celle-là, faite du même sang, de la même chair, animée de la même vie. Leurs yeux surtout, ces yeux bleus éclaboussés de gouttelettes noires,
d'un bleu si frais chez la fille, un peu décoloré chez la mère, fixait si bien sur lui le même regard quand il leur parlait, qu'il s'attendait à les entendre lui répondre les mêmes choses. Et il était un peu surpris de constater, en les faisant rire et bavarder, qu'il y avait devant lui deux femmes très distinctes, une qui avait vécu et une qui allait vivre. Non, il ne prévoyait pas ce que deviendrait cet enfant, quand sa jeune intelligence, influencée par des goûts et des instincts encore endormis, aurait poussé, se serait ouverte au milieu des événements du monde. C'était une jolie petite personne nouvelle, prête au hasard et à l'amour, ignorée et ignorante, qui sortait du port comme un navire, tandis que sa mère y revenait, ayant traversé l'existence et aimé. Il fut attendri à la pensée que c'était lui qu'elle avait choisi et qu'elle préférait encore, cette femme toujours jolie, bercée en ce landau dans l'air tiède du printemps. Comme il lui jetait sa reconnaissance dans un regard, elle le devina, et il crut sentir un remerciement dans un frôlement de sa robe. À son tour, il murmura « Oh oui, quel beau jour !» Quand on eut pris la duchesse, rue de Varennes, ils filèrent vers les Invalides, traversèrent la Seine et gagnèrent l'avenue des Champs-Élysées en montant vers l'Arc de Triomphe de l'Étoile au milieu d'un flot de voitures. La jeune fille s'était assise près d'Olivier, à reculons, et elle ouvrait, sur ce fleuve d'équipage, des yeux avides et naïfs. De temps en temps, quand la duchesse et la comtesse accueillaient un salut d'un court mouvement de tête, elle demandait « Qui est-ce ?» Ils nommaient « Les Pontéglin » ou « Les Puy-Celles-ci » ou « La comtesse de Locriste » ou « La belle Madame Mandelière ». On suivait à présent l'avenue du Bois de Boulogne au milieu du bruit et de l'agitation des roues. Les équipages, un peu moins serrés qu'avant l'Arc de Triomphe, semblaient lutter dans une course sans fin. Les fiacres, les landaux lourds, les huit ressorts solennels se dépassaient tour à tour, distancés soudain par une victoria rapide, attelés d'un seul trotteur, en portant avec une vitesse folle, à travers toute cette foule roulante, bourgeoise ou aristocrate, à travers tous les mondes, toutes les classes, toutes les hiérarchies, une femme jeune, indolente, dont la toilette claire et hardie jetait aux voitures qu'elle frôlait un étrange parfum de fleurs inconnues. « Cette dame-là, qui est-ce » demandait Annette. « Je ne sais pas, » répondait Bertin, tandis que la duchesse et la comtesse échangeaient un sourire. Les feuilles poussaient, les rossignols familiers de ce jardin parisien chantaient déjà dans la jeune verdure, et quand on eut pris la file au pas en approchant du lac, ce fut de voiture à voiture un échange incessant de saluts, de sourires et de paroles aimables lorsque les roues se touchaient. Cela, maintenant, avait l'air du glissement d'une flotte de barques où étaient assis des dames et des messieurs très sages. La duchesse, dont la tête à tout instant se penchait devant les chapeaux levés ou les fronts inclinés, paraissait passer une revue et se remémorer ce qu'elle savait, ce qu'elle pensait et ce qu'elle supposait des gens, à mesure qu'ils défilaient devant elle. « Tiens, petite, revoici la belle Madame Mandelière, la beauté de la République !» Dans une voiture légère et coquette, la beauté de la République laissait admirer, sous une apparente indifférence pour cette gloire indiscutée, ses grands yeux sombres, son front bas sous un casque de cheveux noirs et sa bouche volontaire un peu trop forte. « Très belle, tout de même !» dit Bertha. La comtesse n'aimait pas l'entendre vanter d'autres femmes. Elle haussa doucement les épaules et ne répondit rien. Mais la jeune fille, chez qui s'éveilla soudain l'instinct des rivalités, osa dire « Moi, je ne trouve point !» Le peintre se retourna. « Quoi ? Tu ne la trouves point belle ?»« Non, elle a l'air trempée dans l'encre. » La duchesse riait, ravie. « Bravo, petite, Voilà 6 ans que la moitié des hommes de Paris se pâment devant cette négresse. Je crois qu'ils se moquent de nous. Tiens, regarde plutôt la comtesse de Locriste. »
Seule, dans un landau avec un caniche blanc, la comtesse, fine comme une miniature, une blonde aux yeux bruns, dont les lignes délicates, depuis 5 ou 6 ans également, servaient de thème aux exclamations de ses partisans, saluait, un sourire fixé sur la lèvre.
Mais Nanette ne se montra pas encore enthousiaste. « Oh ! » fit-elle, « elle n'est plus bien fraîche. »
Bertin, qui d'ordinaire dans les discussions quotidiennement revenues sur ses deux rivales ne soutenait point la comtesse, se fâcha soudain de cette intolérance de gamine.
« Bigre, dit-il, qu'on l'aime plus ou moins, elle est charmante, et je te souhaite de devenir aussi jolie qu'elle. »
« Laissez donc, reprit la duchesse, vous remarquez seulement les femmes quand elles ont passé 30 ans.
Elle a raison, cette enfant, vous ne les vantez que défraîchies. »
Il s'écria, « Permettez, une femme n'est vraiment belle que tard, lorsque toute son expression est sortie. »
Et développant cette idée que la première fraîcheur n'est que le vernis de la beauté qui mûrit, il prouva que les hommes du monde ne se trompent pas en faisant peu d'attention aux jeunes femmes dans tout leur éclat, et qu'ils ont raison de ne les proclamer belles qu'à la dernière période de leur épanouissement. La comtesse, flattée, murmurait. « Il est dans le vrai, il juge en artiste. C'est très gentil, un jeune visage, mais toujours un peu banal. »
Et le peintre insista, indiquant à quel moment une figure, perdant peu à peu la grâce indécise de la jeunesse, prend sa forme définitive, son caractère, sa physionomie. Et à chaque parole, la comtesse faisait « oui » d'un petit balancement de tête convaincu. Et plus il affirmait, avec une chaleur d'avocat qui plaide, avec une animation de suspect qui soutient sa cause, plus elle l'approuvait du regard et du geste, comme s'ils se fussent alliés pour se soutenir contre un danger, pour se défendre contre une opinion menaçante et fausse.
Annette ne les écoutait guère, tout occupée à regarder. Sa figure, souvent rieuse, était devenue grave, et elle ne disait plus rien, étourdie de joie dans ce mouvement. Ce soleil, ses feuilles, ses voitures, cette belle vie riche et gaie, tout cela c'était pour elle. Tous les jours elle pourrait venir ainsi, connue à son tour, saluée, enviée. Et des hommes, en la montrant, diraient peut-être qu'elle était belle. Elle cherchait ceux et celles qui lui paraissaient les plus élégants et demandait toujours leur nom, sans s'occuper d'autre chose que de ces syllabes assemblées qui, parfois, éveillaient en elle un écho de respect et d'admiration quand elle les avait lues souvent dans les journaux ou dans l'histoire. Elle ne s'accoutumait pas à ce défilé de célébrités et ne pouvait même croire tout à fait qu'elles fussent vraies, comme si elle eût assisté à quelque représentation. Les fiacres lui inspiraient un mépris mêlé de dégoût, la gênaient et l'irritaient, et elle dit soudain « Je trouve qu'on ne devrait laisser venir ici que les voitures de maître. » Bertin répondit « Eh bien, mademoiselle, que fait-on de l'égalité, de la liberté et de la fraternité ?»
Elle eut une moue qui signifiait « à d'autres » et reprit « Il y aurait un bois pour les fiacres, celui de Vincennes, par exemple. »
« Tu retardes, petite, et tu ne sais pas encore que nous nageons en pleine démocratie. D'ailleurs, si tu veux voir le bois pur de tout mélange, viens le matin. Tu n'y trouveras que la fleur, la fine fleur de la société. »
Et il fit un tableau, un de ceux qu'il peignait si bien, du bois matinal avec ses cavaliers et ses amazones, de ce club des plus choisis où tout le monde se connaît par ses noms, petits noms, parentés, titres, qualités et vices, comme si tous vivaient dans le même quartier ou dans la même petite ville.
« Y venez-vous souvent ? » dit-elle.
« Très souvent, c'est vraiment ce qu'il y a de plus charmant à Paris. »
« Vous montez à cheval le matin ? » ?»«
Mais oui. »
« Et puis l'après-midi, vous faites des visites ? » Oui.
Alors, quand est-ce que vous travaillez?
Mais je travaille quelquefois, et puis j'ai choisi une spécialité suivant mes goûts. Comme je suis peintre de belles dames, il faut bien que je les voie et que je les suive un peu partout.
Elle murmura, toujours sans rire,
à pied et à cheval.
Il jeta vers elle un regard oblique et satisfait qui semblait dire « Tiens, tiens, déjà de l'esprit, tu seras très bien, toi. »
Un souffle d'air froid passa, venu de très loin, de la grande campagne à peine éveillée encore, et le bois entier frémit, ce bois coquet, frileux et mondain. Pendant quelques secondes, ce frisson fit trembler les maigres feuilles sur les arbres et les étoffes sur les épaules. Toutes les femmes, d'un mouvement presque pareil, ramenèrent sur leurs bras et sur leurs gorges le vêtement tombé derrière elles. Et les chevaux se mirent à trotter d'un bout à l'autre de l'allée, comme si la brise aigre qui accourait les eût fouettés en les touchant. On rentra vite au milieu d'un bruit argentin de gourmettes secouées sous une ondée oblique et rouge du soleil couchant.
« Est-ce que vous retournez chez vous ?»
dit la comtesse au peintre dont elle savait toutes les habitudes.
« Non, je vais au cercle. »«
Alors, nous vous déposons en passant ?»«
Ça me va, merci bien. »«
Et quand nous invitez-nous à déjeuner avec la duchesse ?»
Dites votre jour.
Ce peintre attitré des Parisiennes, que ses admirateurs avaient baptisé un watteau réaliste et que ses détracteurs appelaient photographe de robes et manteaux, recevait souvent, soit à déjeuner, soit à dîner, les belles personnes dont il avait reproduit les traits, et d'autres encore, toutes les célèbres, toutes les connues, qu'amusaient beaucoup ces petites fêtes dans un hôtel de garçons.
Après-demain, ça vous va-t-il?
Après-demain, ma chère duchesse,
demanda madame de Guilleroy.
Mais oui, vous êtes charmante. Monsieur Bertin ne pense jamais, et moi, pour ces parties-là, on voit bien que je ne suis plus jeune.
La comtesse, habituée à considérer la maison de l'artiste un peu comme la sienne, reprit.
Rien que nous quatre, les quatre du landau, la duchesse, Annette, moi et vous, n'est-ce pas, grand artiste?
« Rien que nous, » dit-il en descendant, « et je vous ferai faire des écrevisses à l'alsacienne. »«
Oh, vous allez donner des passions à la petite !»